Genèse 40 et Genèse 41, c'est vraiment le tournant de l'histoire de Joseph. Joseph est ici le nouveau leader envoyé par Dieu en Égypte pour délivrer son peuple. Il vient de passer avec succès, comme on l'a vu la semaine dernière, le test de l'épreuve. Il s'est révélé intègre sur toute la ligne parce qu'il avait cette assurance que Dieu est avec lui et que la présence de Dieu est suffisante pour le secourir. Et nous arrivons ici donc à ce tournant de l'histoire. Il a connu une lente descente. Il était âgé de 17 ans lorsqu'il a été envoyé en Égypte. Une lente descente qui l'a conduit jusqu'au fond du trou, on pourrait dire. Je dis le fond du trou parce que dans l'expression qu'on a lue en chapitre 40 et verset 15, il est dit ici, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le mot ici pour prison, c'est le trou. Je n'ai jamais été mis au trou. Je n'ai rien fait pour être mis au trou. Et puis, dans l'instant qui suit, juste le jour où il est convoqué devant Pharaon, il va être élevé jusqu'au trône de Pharaon. Il est assis à côté de Pharaon, à côté de ce trône. Et donc, après avoir connu cette lente descente, il a été propulsé à la tête de l'Égypte. Ça fait partie de ces spectaculaires retournements de situation que la Bible nous rapporte. Vous vous souvenez, comme dans Esther, Esther et Mardochée sont voués à la mort parce qu'ils sont juifs. Et puis, l'action de Dieu, souveraine de Dieu, ils se retrouvent à la tête de la Perse. Et puis, Aman, leur persécuteur, celui qui veut provoquer ce génocide, est pendu au bois qu'il avait lui-même fait dresser pour Mardochée. Renversement de situation. Ou comme dans le livre de Daniel, lorsque Daniel et ses amis sont confrontés par le roi qui vient de faire un songe. Et il dit, si vous n'êtes pas capable d'expliquer le songe, vous ne me servez à rien, je vais vous massacrer, je vais vous tuer. Et à ce moment-là, Daniel et ses compagnons prient, ils expliquent le songe. Dieu, par l'intermédiaire du roi Nebuchadnezzar, les propulse à la tête du pays de Babylone. Dieu est le spécialiste des retournements de situation spectaculaires. Il montre par là qu'il exerce sa domination sur les rois de toute la terre. Il dit le cœur du roi est comme un courant d'eau et il l'incline où il veut. Il est aussi le seigneur de toutes les nations. Il domine sur toutes les nations, il règne sur toutes les nations et il fait ce qu'il veut de chaque nation. Bien entendu, s'il le fait pour les rois, s'il le fait pour les nations, il le fait aussi pour chacune de nos vies. Et donc la compréhension de la providence de Dieu est tellement importante. C'est comprendre que Dieu est souverainement élevé et qu'il a la possibilité de contrôler toute chose ici-bas dans l'univers tout entier a un impact décisif sur notre vie. D'abord, je vous propose de voir que la providence de Dieu engendre une foi active. On verra ensuite que la providence de Dieu engendre l'humilité. Et puis enfin, on verra que la providence de Dieu engendre la reconnaissance. Voyons tout d'abord la foi de Joseph. La foi de Joseph se manifeste particulièrement lors de l'explication du rêve de l'échanson. L'échanson et le panetier, c'est pas simplement... L'échanson, c'est celui qui verse le vin dans la coupe de Pharaon. Et le panetier, c'est celui qui organise les repas, et en particulier le pain. C'était deux hauts fonctionnaires. Parce que quand vous avez la possibilité de côtoyer quotidiennement Pharaon, et quand vous pouvez aussi facilement l'empoisonner par son vin ou par sa nourriture, c'est des places de haute confiance qui sont attribuées à ces hommes. Donc ce n'est pas simplement des cuisiniers ou des serveurs, hein. C'est des hauts fonctionnaires. Et donc, Quand Joseph révèle le songe à l'échanson, il lui dit au verset 14, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. » Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Ici, on voit que Joseph a une confiance absolue dans l'accomplissement du rêve. Il sait... Dieu va te faire sortir de cette prison, il va te permettre de revenir en grâce auprès de Pharaon, alors je te prie, parle de moi à Pharaon, parce que moi aussi, je n'ai pas l'intention de rester dans ce trou. Je sais que Dieu m'a choisi pour qu'un jour je domine sur mes frères et que je sauve ma famille. Il a cette confiance absolue. Et il s'attend à leur accomplissement de toutes ces choses. Son attitude aussi révèle, je trouve, une chose importante dans la foi. C'est une foi active. Parfois, on confond la confiance en Dieu, dans la providence de Dieu, avec le fatalisme. Inch'Allah, j'irai, je sortirai de cette prison. C'est-à-dire, c'est du fatalisme. C'est peu importe ce que je fasse quelque chose ou que je ne fasse rien, les choses se feront. Et c'est jamais comme cela que Dieu gouverne. Dieu gouverne avec... en nous utilisant, en nous engageant dans ses plans. Et ça, c'est une chose importante, parce que notre foi, elle doit se manifester au travers d'actions. Parce que nous avons confiance en Dieu, parce que nous croyons qu'il est souverain et qu'il dirige, alors nous nous engageons avec lui dans son œuvre. Et ici, Joseph, il va pas hésiter à rappeler son sort à l'échanson. Hein, qui sera libéré 3 jours plus tard et rétabli dans sa fonction. Il entreprend une démarche pour améliorer sa situation, tout en veillant à ce que son initiative soit marquée du sceau de l'intégrité. Il résume brièvement les circonstances qui l'ont conduit en prison. Il dit, et Joseph, il ne cache pas qu'il n'est pas là de sa faute. Mais... Et c'est assez fin comment il fait. Et il dit, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Il ne blâme pas ses frères. Il ne blâme pas Madame Potiphar et Monsieur Potiphar qu'il a finalement jeté en prison. Mais il donne une explication. Il dit, je n'ai rien fait de mal pour me retrouver ici. Et il plaide sa cause devant les chansons. Et ça, c'est important à ce moment-là parce que la plupart des esclaves l'étaient devenus à cause des circonstances économiques. Lorsque les gens faisaient faillite, ils se vendaient eux-mêmes comme esclaves. Et ce n'est pas ce qui s'est produit pour Joseph. Et il tenait à ce que Pharaon le sache. Il était une victime de la situation. De plus, pendant sa vie d'esclave en Égypte, il n'avait rien fait pour être mis au cachot. Ce qui signifiait qu'il avait été incarcéré injustement. Joseph, il ne confond pas le gouvernement providentiel de Dieu avec son approbation morale, avec l'approbation morale de Dieu. C'est-à-dire, il fait la distinction entre le fait que Dieu a une volonté morale. Dieu a une volonté morale, c'est-à-dire qu'il ne veut pas le mal. Il réprouve l'injustice. Il réprouve l'attitude des frères de Joseph. Il réprouve l'attitude de Madame Potiphar et de Monsieur. Mais Joseph, il sait aussi qu'il y a une volonté décrétive, une volonté secrète chez Dieu. qui dirige et contrôle toutes choses. C'est important de faire cette distinction dans notre compréhension. La volonté morale, elle nous est parfaitement révélée. Les 10 commandements, pour ainsi dire, sont simples à comprendre. Et nous sommes responsables d'accomplir la volonté morale de Dieu. Et nous n'y arrivons pas. Et nous méritons la punition pour ne pas l'avoir accomplie. L'autre volonté, cette volonté décrétive, nous ne la comprenons pas du commencement jusqu'à la fin. Il y a une dimension dans le dessein de Dieu qui nous échappe. On s'efforce de la connaître, mais elle nous échappe. Et pourtant, nous l'accomplirons, nous l'accomplissons. La volonté morale, elle nous est révélée, nous ne l'accomplissons pas. La volonté secrète ou décrétive de Dieu, nous ne la connaissons pas et pourtant nous l'accomplissons, malgré nous. Et donc, ces deux pensées sont là dans le cœur de Joseph. Et sa foi est ainsi. Il sait, oui, Dieu condamne l'attitude de mes frères, Dieu condamne l'attitude de Madame Potiphar, mais Dieu m'a voulu ici. Et il contrôle cette situation parfaitement. Elle est dans sa volonté pour moi. Le fatalisme a du mal justement à distinguer ce qui est de ce qui devrait être. La Bible nous encourage à faire confiance à la bonté du Dieu providentiel, souverain, tout en dénonçant le mal qui sévit dans notre monde déchu, en nous y opposant. Quelle application pourrait-on faire? Vous pouvez rencontrer des difficultés sérieuses dans votre travail ou dans votre couple. Vous reconnaissez que Dieu est souverain et que c'est lui qui a permis que vous vous engagiez dans ce travail ou dans cette relation. Mais une foi saine vous pousse aussi à entreprendre une amélioration de votre situation, saisissant des opportunités professionnelles ou sollicitant de l'aide pour votre couple. Vous devez à la fois faire confiance à Dieu qui contrôle toutes choses et entreprendre ce qui dépend de vous. Et je pense que c'est l'attitude équilibrée de Joseph, d'une foi saine. Mais sa foi, elle est encore mise à l'épreuve. Hein, et au lieu de se souvenir de Joseph, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Et le chapitre 41, verset 1 dit « Au bout de 2 ans ». Waouh ! C'est pas « il l'a oublié 2 heures », non, 2 ans. Et au bout de 2 ans, 2 ans, c'est, pour que ça nous parle peut-être mieux, c'est 730 jours. 730 matins où Joseph s'est dit, aujourd'hui, il va se souvenir de moi. Aujourd'hui, il va parler de moi à Pharaon. Vous savez, quand on cherche à avoir cette foi équilibrée, c'est-à-dire cette foi active, cette foi qui essaie d'entreprendre, fatalement on se confie parfois dans les hommes. Puisque j'ai fait connaître ma cause devant les chansons, alors certainement il va plaider ma cause et naturellement on a tendance à placer notre confiance dans les hommes. Et les hommes vont nous oublier. Et les hommes vont nous décevoir. Et les hommes vont rater leurs engagements. La foi saine, elle doit être fixée sur Dieu et non sur les hommes. Sur Dieu, non sur les hommes. Même quand on sollicite les hommes. Les hommes vous oublieront, mais jamais Dieu. Et donc, il y a ici une espèce d'équilibre délicat qu'il nous faut trouver entre une foi qui est active et qui entreprend des choses et puis une confiance totale, souveraine en Dieu. Faites les choses comme si elles ne dépendaient que de vous, sans jamais oublier qu'elles dépendent entièrement de Dieu. Faites les choses comme si elles dépendaient entièrement de vous, sans jamais oublier qu'elles dépendent entièrement de Dieu. Et c'est dans cette confiance qu'en son temps, Dieu le secourra, qu'a vécu encore ces deux années Joseph. Et puis, la providence de Dieu, le contrôle qu'il a de toutes choses, engendre l'humilité. Et l'humilité de Joseph, elle se manifeste particulièrement lorsque Pharaon fait appeler Joseph, hein, chapitre 41, verset 14 à 16. Et Joseph ici, Pharaon lui dit, j'ai appris la chose, les chansons m'ont raconté votre histoire, et je sais que tu as le pouvoir d'expliquer les songes. Vous savez, à l'époque, en Égypte, l'étude des rêves, c'était le sport national. Ils étaient tout le temps en train de vouloir découvrir l'avenir, prendre leurs décisions d'après ce que Dieu révélait au travers des songes. Mais là, personne n'est capable de le faire. Et donc, quand Pharaon se tourne vers Joseph pour lui demander, pour lui dire, il n'y a que toi qui peux expliquer ce songe, que dit Joseph ? Il dit, verset 16, « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et c'est ce qu'il avait déjà fait avec les deux hauts fonctionnaires, hein, dans le chapitre 40. Il dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Et ici encore, devant Pharaon, il dit, « C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Verset 28, il dit, « Ainsi, comme je viens de te le dire, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Et verset 32, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Et la chose finit par pénétrer le cœur de Pharaon, de sorte que au verset 39, Pharaon dit, « Puisque Dieu t'as fait connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Tout ce qui arrive dépend de la sage providence de Dieu. Et c'est cela qui engendre l'humilité chez Joseph. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a conduit en Égypte, malgré ses frères. C'est Dieu qui l'a placé chez Potiphar. C'est Dieu qui l'a mis en prison et qui l'y a gardé jusqu'à ce jour. C'est Dieu qui a donné un rêve à Pharaon. Et c'est Dieu qui a réveillé la mémoire de l'échanson. Et c'est Dieu qui donnera l'explication du rêve. La Bible dit, ces voix ne sont pas nos voix. Et ces pensées ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées, les voix de Dieu, les manières de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. C'est Dieu qui donne les rêves et c'est Dieu qui donne leur explication. Et pourtant, c'est à un homme qu'il confie le don d'être son porte-parole. Et Joseph comprend ce rôle-là et il se reconnaît simplement comme le porte-parole de Dieu, simplement celui qui fait connaître les plans de Dieu. C'est valable aussi pour tous les dons. Ce n'est pas celui qui a le don qui doit être célébré, mais c'est celui qui a fait le don. Et bien sûr, on est tous d'accord avec cette vérité. On doit célébrer Dieu et non pas celui qui a le don. Et pourtant, on fait souvent la confusion et on glorifie l'homme plutôt que de glorifier Dieu. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? si Dieu vous a équipé pour accomplir son œuvre, alors gloire à son nom. Donnez-lui gloire. Lorsqu'on reconnaît que les choses n'arrivent pas par hasard ou par chance, ni par une fatalité, mais par Dieu, le Créateur et le Seigneur de l'univers, alors nos cœurs sont poussés à l'humilité. On doit apprendre cela. On doit apprendre que malgré tous nos efforts, malgré tout le travail que l'on peut fournir, malgré toute l'intelligence, malgré toute la sagesse, malgré tout le conseil, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et quand on reconnaît cela, alors on voit que la part à qui nous est échue est infime. Et que bien souvent, malgré le fait qu'on l'ait fait avec un plein enthousiasme, une pleine confiance, beaucoup de cœur, on se rend compte que notre part n'a pas servi à grand-chose. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et ça nous pousse à l'humilité. Et l'humilité, elle nous fait trouver grâce auprès des rois. C'est ce qui s'est passé ici. Juste après avoir dit tout cela, Joseph donne un conseil. Vous vous rendez compte de la chose? Il est hébreu. Il est esclave. Et il va donner un conseil au roi égyptien. Et le roi de l'Égypte, Pharaon, va recevoir et accueillir favorablement ce conseil. Et il va lui confier même toute la charge. Oui, la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu engendre dans nos cœurs la foi, une foi active, l'humilité, mais aussi la reconnaissance. Et cette reconnaissance de Joseph, elle se manifeste lorsqu'il est au sommet de l'Égypte. Dans le chapitre 41, verset 40, il est dit ici, « Je t'établis sur ma maison, ce Pharaon qui parle, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et puis Pharaon le couvre d'or, de fin lin, de puissance et d'honneur. Il est probable que parmi tous les hauts fonctionnaires de l'Égypte à ce moment-là, il y avait certainement le garde des Sceaux, Potiphar. Et puis il y avait certainement aussi l'échanson, le chef des échansons, le fameux qui l'avait oublié. Et puis il est promené dans la ville. En réfléchissant à ça, je me suis dit, j'ai osé imaginer que son char passe devant la maison de Potiphar. Et là, il y a madame qui est dehors, qui est à genoux. Et Joseph passe. Ils sont deux à connaître l'affaire qui a conduit Joseph en prison. Et ils sont d'accord sur les circonstances. Vous voyez où je veux en venir? Ça fait 13 ans qu'il galère. Et maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut avec ceux qui ont contribué à sa souffrance. Il a la possibilité de faire payer chacun pour leur méchanceté. Mais il n'en fait rien. Même cette pensée semble ne pas l'avoir traversée. Comment est-ce possible? Joseph a cette conviction que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez la même conviction? Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu est absolument souverain. Et sa souveraineté ne minimise pas la responsabilité de l'homme. Ses frères et Madame Potiphar et Potiphar sont coupables. Les êtres humains sont des créatures responsables. Ils effectuent des choix. Ils sont capables de révolte, d'obéir, de croire, de s'opposer. Ils prennent des décisions et ils devront rendre, et nous devrons rendre compte pour ces actes. Mais la responsabilité de l'homme ne fonctionne jamais de manière à rendre Dieu absolument contingent, c'est-à-dire dépendant ou contraint. Dieu accomplit son plan. Même si Dieu déteste la méchanceté des frères qui l'ont vendu comme esclave, même si Dieu déteste et réprouve l'abus de pouvoir de Madame Potiphar et l'abus de pouvoir de Monsieur Potiphar aussi qui le fait jeter en prison, s'il réprouve la négligence, l'indifférence coupable du chef des chansons, Dieu n'est pas contraint par ces choses. Il a la puissance de les faire concourir toutes à l'exécution de sa volonté parfaite. Et c'est cette vérité que Joseph connaît et croit et qui désamorce dans son cœur la soif de vengeance et son amertume. Il ne leur en veut pas parce que le dessein de Dieu s'accomplit parfaitement pour lui. C'est ça qui est très fort, je trouve, dans ce passage. Est-ce que vous avez déjà considéré votre situation de cette manière? La volonté de Dieu parfaite pour vous s'accomplit, même au travers de l'injustice des hommes. Pharaon lui donne également un nom nouveau. Le nom signifie, au verset 45, « celui qui découvre les choses cachées » ou « celui qui parle et qui vit ». Puis lui donne aussi une épouse, fille d'un prêtre don. C'est un immense honneur, semble-t-il, d'avoir pour épouse la fille du prêtre don. C'est un peu comme la fille du pasteur, quoi. Je rigole. Mais j'attends le jeune homme qui viendra frapper à mon bureau quand même. Et cette femme lui donne, pendant les 7 premières années d'abondance et de mariage, lui donne 2 garçons. Et le premier, Manassé, Joseph l'appelle Manassé, verset 51. Il dit « Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Je crois que c'est là que je vois la reconnaissance de Joseph. « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. » C'est ce moment où il reconnaît que, au fond, le plan de Dieu s'accomplit pour sa vie à la perfection. Il ne peut pas dire, je regrette, ce passage-là était tellement... Il dit, c'était dur, mais maintenant je comprends. Dieu agit de manière merveilleuse. Et Joseph voit le dessein de Dieu au travers des difficultés. Et il regarde donc les personnes qui lui ont fait du mal comme des instruments de Dieu pour l'accomplissement de son dessein bienveillant. Envers Joseph, envers l'Égypte et envers sa propre famille. Et c'est pourquoi il peut pardonner ses ennemis. Il ne garde plus aucune amertume, plus aucun esprit de vengeance. Il peut regarder par la suite, on va le voir, ses frères ou Madame Potiphar ou même Potiphar ou le chef des échansons sans leur en vouloir, sans vouloir les mettre à mort. Il est réconcilié parce qu'il a vu que le dessein de Dieu s'est accompli parfaitement dans sa vie. Il n'y a rien de tel. Vous traversez des difficultés. Pensez à cela. Les difficultés de Dieu sont en train d'accomplir dans ma vie un plan qui est infiniment beau, infiniment bon, à mon égard, infiniment glorieux. Et dans l'éternité, il n'y aura pas la moindre pas le moindre regret. Et puis verset 52, il appelle son deuxième fils Éphraïm, c'est-à-dire « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu a fait fructifier Joseph. Il lui a donné une femme, des enfants, de la richesse, du pouvoir, de la gloire. Mais plus encore, je crois qu'il lui a donné une communion et une connaissance de Dieu. Vous savez, nos difficultés sont ses possibilités à lui, à Dieu, de transformer nos cœurs à la ressemblance de Jésus-Christ. Nos afflictions sont ses possibilités pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui est la garantie d'un fruit abondant et durable. Il dit ici, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dans le pays de mon affliction. Là où c'était tellement dur. Vous savez, on a besoin de guérir des souffrances de notre passé. Et certainement, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, a vécu des choses difficiles dans le passé. Il ne faut pas que ces choses difficiles du passé viennent assaillir ou asservir notre vie et notre manière de vivre aujourd'hui. Et pour cela, il faut pouvoir regarder ces choses comme étant celles du plan souverain de Dieu qui est en train de s'accomplir pour notre bien à nous. Pour sa gloire. C'est tellement important cela. Ne laissez pas les années d'autrefois qui ont été pénibles déterminer votre manière de vivre et votre avenir. Mais confiez-vous dans la souveraineté de Dieu. Reconnaissez son plan admirable et rendez-lui grâce. Soyez-lui reconnaissant. Paul dit aux Thessaloniciens, et soyez reconnaissants, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes choses. Dans les choses les plus difficiles auxquelles vous pouvez penser, cherchez comment Dieu a transformé votre cœur. Comment est-ce qu'il vous a peut-être amené à Jésus-Christ? Comment il peut vous faire porter du fruit, un fruit abondant, sur cette terre d'affliction dans laquelle vous avez pu être? Et glorifier son nom. C'est ainsi que vous allez guérir de ces blessures du passé. Faites cet effort, je vous en prie, lorsque vous êtes dans le pays de l'affliction, de voir tout ce que le Seigneur a fait fructifier dans vos vies. Et dites-lui votre reconnaissance. L'histoire de Joseph préfigure celle de Jésus-Christ merveilleusement. Christ a lui aussi connu cette lente descente qui s'est terminée par la mort infâme de la croix. Et après 3 jours, il a fait éclater son salut avec puissance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Du trou au trône, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus pour pourvoir un salut parfait pour nous. Nos péchés, tous nos manquements, notre incapacité à avoir cette foi active en Dieu et équilibrée. Mais aussi cette incapacité à vivre humblement devant sa face. Ou cette incapacité à exprimer notre reconnaissance, quelle que soit... Jésus-Christ est venu. Et lui, il a parfaitement été confiant en son Père. Parfaitement humble et toujours reconnaissant. Il a pu prier pour ses bourreaux, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et parce que lui voyait la grandeur, la magnificence du plan de salut qu'il était en train d'accomplir. Voilà ce que Dieu a fait